Chapitre 7 à 11 Les 10 plaies d'Égypte. Ces cinq chapitres forment une partie distincte du livre de l'Exode. Leur contenu peut être rangé sous les trois titres suivants. Les 10 jugements de l'Éternel sur l'Égypte, la résistance des devins et les 4 objections du Pharaon. Les jugements de l'Éternel sur les oppresseurs. Tout le pays d'Égypte fut ébranlé sous les coups successifs de la verge de l'Éternel. Tous, depuis le monarque assis sur son trône, jusqu'à la servante travaillant à la meule, durent sentir le terrible poids de cette verge. Il envoya Moïse, son serviteur, à Aaron qu'il avait choisi. Ils opérèrent au milieu d'eux ces signes et des prodiges dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et fit une obscurité. Et ils ne se rebellèrent pas contre sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit mourir leurs poissons. Leur terre fourmilia de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il parla et il vint des mouches venimeuses et des moustiques dans tous leurs confins. Il leur donna pour pluie de la grêle, un feu de flamme dans leur pays. Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il parla et les sauterelles vinrent, et des yéleks sans nombre. Et ils dévorèrent toutes les plantes dans leur pays, et dévorèrent le fruit de leur sol. Et il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. Psaume 105, versets 26 à 36. Ici, le psalmiste nous décrit en termes concis les terribles châtiments que, par la dureté de son cœur, le Pharaon fit venir sur sa terre et sur son peuple. Ce roi orgueilleux avait entrepris de résister à la volonté souveraine du Dieu Très-Haut, et, comme juste conséquence de cet acte, il fut judiciairement aveuglé et endurci. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne les écouta pas, comme l'Éternel avait dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant le Pharaon, et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. « Laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve, car cette fois j'envoie toutes mes plaies dans ton cœur, et sur tes serviteurs, et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est comme moi sur toute la terre. Car maintenant j'étendrai ma main, et je te frapperai de peste, toi et ton peuple, et tu seras exterminé de dessus la terre. Mais je t'ai fait subsister pour ceci, afin de te faire voir ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. » Chapitre 9, versets 12 à 16. En considérant le Pharaon et ses actes, nos pensées se transportent au milieu des scènes terrifiantes de l'Apocalypse. Celles-ci nous font voir le dernier orgueilleux oppresseur du peuple de Dieu, faisant descendre sur son royaume et sur lui-même les 7 coupes de la colère du Tout-Puissant. Dieu, dans ses desseins, a voulu qu'Israël ait la prééminence sur la terre. Il faut donc que quiconque a la prétention de s'opposer à cette prééminence soit mis de côté. Il faut que la grâce divine trouve son objet, et quiconque entreprend d'opposer une barrière à cette grâce doit être ôté. Que ce soit l'Égypte, Babylone ou la bête qui était et qui n'est plus et qui sera. Apocalypse 17, verset 8. La puissance divine ouvrira la voie pour que la grâce puisse couler, et la malédiction de Dieu sera sur tous ceux qui y mettront obstacle. Ils goûteront pendant toute l'éternité le fruit amer de leur rébellion contre l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Il a dit à son peuple, « Aucun instrument formé contre toi ne réussira. » Ésaïe 54, verset 17. Et son immuable fidélité accomplira très certainement ce que sa grâce a promis. Ainsi, quand le Pharaon persista à retenir Israël de sa main de fer, les coupes de la colère divine furent répandues sur lui, et le pays d'Égypte tout entier fut couvert de ténèbres, de maladies et de désolation. Il en sera bientôt de même du grand et dernier oppresseur, alors qu'il sortira de l'abîme armé de la puissance satanique pour écraser sous le pied de l'orgueil, psaume 36, verset 11, ceux que l'Éternel a choisis comme objet de sa faveur. Son trône sera renversé, son royaume dévasté par les 7 dernières plaies, et finalement, il sera lui-même plongé non dans la mer Rouge, mais dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 17, verset 8 et 20, verset 10. Pas un iota de ce que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob ne passera sans être accompli. Malgré tout ce qui peut être dit ou fait en sens contraire, Dieu se souvient de ses promesses et il les accomplit. Toutes ses promesses sont oui et amen dans le Christ Jésus. 2 Corinthiens 1, verset 20. Des dynasties se sont élevées et ont joué leur rôle sur le théâtre de ce monde. Des trônes ont été érigés sur les ruines de l'ancienne gloire de Jérusalem. Des empires ont fleuri pour un temps et puis se sont écroulés. D'ambitieux souverains ont combattu pour la possession de la terre promise à Israël. Tout cela a eu lieu, mais l'Éternel a dit, concernant cette terre, « Le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi. » Lévitique 25, verset 23. Nul autre que l'Éternel lui-même ne possédera en définitive ce pays, et c'est par la semence d'Abraham qu'il le possédera. La terre de Canaan est pour la postérité d'Abraham, et la postérité d'Abraham pour la terre de Canaan, et jamais aucun pouvoir ne pourra renverser cet ordre divin. Un simple passage de l'Écriture suffit pour fixer nos pensées relatives à ce sujet. Nul n'est comme le Dieu de Jeshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours, et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit « Détruis ». Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob à part, dans un pays de froment et de mou, et ses cieux distilleront la rosée. Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur leurs lieux élevés. Deutéronome 33, versets 26 à 29. Le Dieu éternel a engagé sa parole, et le sang de l'Alliance éternelle a coulé pour ratifier cette parole. Qui donc l'annulerait? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. La résistance des devins. Considérons maintenant l'opposition de Jannès et de Jambrès, les magiciens égyptiens. Nous n'aurions pas connu les noms de ces hommes s'ils n'avaient été nommés par le Saint-Esprit en relation avec les temps fâcheux dont l'apôtre Paul parle à son enfant Timothée. Il est important que le lecteur chrétien comprenne bien la vraie nature de la résistance opposée à Moïse par ces magiciens. Pour avoir une vue complète du sujet, citons le contexte du passage qui les mentionne. Or, sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi, mais ils n'iront pas plus avant car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. 2 Timothée 3, versets 1 à 9. La nature de cette résistance à la vérité est quelque chose de tout particulièrement sérieux. Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse simplement en imitant, pour autant que cela était en leur pouvoir, tout ce qu'ils faisaient. Nous ne voyons pas qu'ils aient attribué à une puissance trompeuse ou mauvaise les opérations de Moïse, mais plutôt qu'ils cherchèrent à en neutraliser les faits sur la conscience en faisant les mêmes choses que lui. Ce que Moïse faisait, eux aussi pouvaient le faire, en sorte qu'il n'y avait pas, après tout, une grande différence. Si Moïse opérait des miracles pour faire sortir le peuple hors d'Égypte, eux pouvaient en opérer pour le faire rester au pays. De tout ceci, nous apprenons que la résistance la plus perverse au témoignage de Dieu dans le monde vient de ceux qui, bien qu'ils imitent les effets de la vérité, n'ont que la forme de la piété et en renient la puissance. 2 Timothée 3, verset 5. Ces gens-là peuvent faire les mêmes choses, adopter les mêmes habitudes et les mêmes formes, employer le même langage que les croyants. Si le vrai chrétien, pressé par l'amour du Christ, donne à manger à celui qui a faim, donne des habits à celui qui est nu, visite les malades, répand les Écritures, distribue des traités, prie, chante des cantiques, défend et prêche l'Évangile, le formaliste peut faire tout cela. Qu'on y prenne garde, c'est là le caractère spécial de la résistance opposée à la vérité dans les derniers jours. De la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi, ces professants amis du monde et des plaisirs résistent à la vérité. Ils ne voudraient pas être sans la forme de la piété. Mais tout en adoptant la forme, parce qu'elle est entrée dans les usages, ils en haïssent la puissance, parce qu'elle implique le renoncement à soi-même. La puissance de la piété implique la reconnaissance des droits de Dieu et la manifestation des caractères du royaume de Dieu dans la vie tout entière. Mais celui qui n'est attaché qu'à la forme ignore tout cela. La puissance de la piété ne peut jamais s'accorder avec les hideux caractères que le passage de l'Épître à Timothée nous signale. Mais la forme, tout en sachant ses caractères, les laisse vivants et insoumis. Le formaliste ne tient pas à ce que ses convoitises soient subjuguées, ses plaisirs entravés, ses passions domptées, ses affections réglées, son cœur purifié. Il pense qu'il faut tout juste assez de religion pour pouvoir tirer le meilleur parti possible du monde présent et du monde à venir. Il ne sait pas ce que c'est que d'abandonner le monde présent parce qu'on a trouvé le monde à venir. En considérant les formes que prend l'opposition de Satan à la vérité de Dieu, nous voyons que sa tactique a toujours été de résister à cette vérité, d'abord par la violence, en l'attaquant ouvertement, et ensuite, quand ce moyen n'a pas réussi, en la corrompant par une contrefaçon. Ainsi, il chercha d'abord à faire mourir Moïse, chapitre 2, verset 15, et ne pouvant pas accomplir son dessein, il essaya d'imiter ses œuvres. Il en a été de même quant à la vérité confiée à l'Église de Dieu. Les premiers efforts de Satan se manifestèrent par la colère des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple, par les tribunaux, la prison et l'épée. Mais dans le passage de la seconde épître à Timothée, il n'est pas fait mention de choses semblables. L'attaque ouverte a fait place aux moyens bien plus subtils et plus dangereux d'une profession vaine, d'une forme sans puissance, d'une contrefaçon humaine. Au lieu de se présenter l'épée de la persécution à la main, l'ennemi se promène couvert du manteau de la profession. Il professe et il imite ce qu'une fois il combattait et persécutait. Et par ce moyen, il obtient pour le présent des avantages effrayants. Les formes horribles du mal moral qui, de siècle en siècle, ont souillé l'histoire de l'humanité, au lieu de ne se trouver que dans les lieux où on pourrait naturellement les chercher, dans les repères des ténèbres humaines, se trouve soigneusement arrangé à l'intérieur de la profession chrétienne. C'est là un des grands chefs-d'œuvre de Satan. Il est naturel que l'homme, créature déchue et corrompue, soit égoïste, avare, vantard, hautain, profane, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu. Mais qu'il soit tout cela sous la belle apparence d'une forme de piété, dénote l'énergie spéciale de Satan dans sa résistance à la vérité au dernier jour. Que l'homme manifeste ouvertement ses vices, ses convoitises et ses passions hideuses, ce sont les résultats nécessaires de son éloignement de la source de la sainteté et de la pureté. Mais quand on voit le nom du Seigneur Jésus associé à la perversité et à la méchanceté de l'homme, quand on voit de saints principes unis à des pratiques impies, quand on voit tout ce qui caractérise la corruption des gentils, tel que nous la présente le premier chapitre de l'Épître aux Romains, associé à la forme de la piété, alors, on peut dire que ce sont là les affreux caractères des derniers jours, analogues à la résistance de Jannès et de Jambrès. Toutefois, il n'y eut que trois choses dans lesquelles les magiciens de l'Égypte purent imiter les serviteurs du Dieu vivant et vrai. Ils changèrent leur verge en serpent, chapitre 7, verset 12. Ils changèrent l'eau en sang, chapitre 7, verset 22. Et ils firent monter des grenouilles sur le pays. Chapitre 8, verset 7. Mais au quatrième signe, qui impliquait la puissance créatrice, la manifestation de la vie, liée à la mise en évidence de l'état d'humiliation de la nature, ils furent confondus et obligés de dire « C'est le doigt de Dieu ». Chapitre 8, verset 16 à 19. Il en est de même de ceux qui résistent à la vérité dans les derniers jours. Tout ce qu'ils font est selon l'énergie directe de Satan et reste dans les limites de son pouvoir. En outre, leur but spécial est de résister à la vérité. Les trois choses que Jannès et Jambrès eurent le pouvoir d'exécuter sont caractérisées par l'énergie satanique, la mort et l'impureté. C'est ainsi qu'ils résistèrent à Moïse. De même, aujourd'hui, il y en a qui résistent à la vérité en empêchant son action morale sur la conscience. Rien ne contribue plus à affaiblir la puissance de la vérité que le fait que des personnes qui ne sont pas du tout sous son influence font exactement les mêmes choses que ceux qui s'y trouvent. C'est là la manière d'agir de Satan dans le moment actuel. Il cherche à faire passer tous les hommes pour des chrétiens. Il aimerait nous faire croire que nous sommes entourés d'un monde chrétien. Mais ce n'est qu'une chrétienté de contrefaçon qui, loin de rendre témoignage à la vérité, est là pour résister à l'influence sanctifiante et purifiante de celle-ci. Le serviteur de Christ, le témoin de la vérité, est de toutes parts environné de l'esprit de Jannès et de Jambrès. Il est bon qu'il s'en souvienne, qu'il connaisse à fond le mal avec lequel il a à lutter, qu'il n'oublie pas que le monde qui l'entoure est l'imitation satanique de l'œuvre de Dieu, produite non par la baguette d'un magicien, mais par l'action de professants, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Ces gens font des choses paraissant bonnes et justes, mais ils n'ont ni la vie de Christ dans leur âme, ni l'amour de Dieu dans leur cœur, ni la puissance de la parole de Dieu dans leur conscience. Mais, ajoute l'apôtre, ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. En effet, la folie de Jannès et de Jambrès fut manifeste pour tous, alors que non seulement ils ne purent pas aller plus avant en imitant les miracles de Moïse et d'Aaron, mais qu'ils furent, de fait, enveloppés dans les jugements de Dieu. La folie de tous ceux qui n'ont que la forme sera pareillement manifestée. Non seulement ils seront incapables d'imiter dans leur entier les effets propres de la vie et de la puissance divine, mais encore ils deviendront eux-mêmes les objets des jugements qui résulteront du rejet de cette vérité à laquelle ils ont résisté. Ces exemples devraient porter chacun de nous à s'examiner sérieusement pour se rendre compte s'il rend témoignage à la vérité en marchant dans la puissance de la piété ou s'il en neutralise les effets en n'en ayant que la forme. Les effets de la puissance de la piété se montreront en ce que nous demeurerons dans les choses que nous avons apprises. 2 Timothée 3, verset 14. Dieu soit béni. Les nombreuses fractions de l'Église professante renferment un grand nombre d'hommes dont la conscience a été lavée dans le sang expiatoire de l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Dont les cœurs sont vraiment attachés à sa personne et dont les esprits sont réjouis par la bienheureuse espérance de le voir tel qu'il est et d'être pour toujours rendu conforme à son image. On est encouragé en pensant à cela. C'est une grande grâce que d'avoir communion avec ceux qui peuvent rendre raison de l'espérance qui est en eux et de la position qu'ils occupent. Les objections du Pharaon à la sortie d'Israël. Il nous reste encore à examiner le troisième point que nous avons signalé dans cette partie du livre, savoir les quatre objections du Pharaon à la délivrance du peuple de Dieu et à son entière séparation de l'Égypte. La première objection. La première de ces objections se trouve au chapitre 8, verset 25. Et le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. » Que les magiciens opposent de la résistance ou que le Pharaon fasse des objections, de fait c'est Satan qui est derrière la scène. Son but, dans la proposition qu'il suggère au Pharaon, était d'empêcher le témoignage qui devait être rendu au nom de l'Éternel, et qui se rattachait à la séparation complète du peuple de Dieu d'avec l'Égypte. Il est évident qu'il n'y aurait pas eu de témoignage de ce genre si le peuple était resté en Égypte, même s'il y avait sacrifié à l'Éternel. Les Israélites se seraient placés ainsi sur le même terrain que les Égyptiens et auraient mis l'Éternel au niveau des dieux de l'Égypte. Un Égyptien aurait pu dire à un Israélite, « Je ne vois pas de différence entre nous. Vous avez votre culte et nous avons le nôtre. » Les hommes trouvent parfaitement juste et comme une chose qui va de soi que chacun ait la religion qui lui plaît. Pourvu que nous soyons sincères et que nous ne nous mêlions pas des croyances de notre voisin, peu importe la forme de notre religion. Telles sont les pensées des hommes. Mais il est bien évident que la gloire du nom de Jésus n'a aucune place dans tout cela. L'ennemi s'opposera toujours à toute pensée de séparation et l'homme ne la comprend pas. Le cœur peut aspirer à une religion, parce que la conscience atteste que tout n'est pas en règle, mais il aspire au monde tout aussi bien. Il aimerait sacrifier à Dieu dans le pays. Or, quand on accepte une piété mondaine et qu'on refuse de sortir et de se séparer, le but de Satan est atteint. Son dessein invariable depuis le commencement a été d'empêcher le témoignage rendu au nom de Dieu sur la terre. C'était son but caché quand il faisait dire au Pharaon « Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. » Cela aurait été étouffer le témoignage que d'adhérer à cette proposition. Le peuple de Dieu en Égypte et Dieu lui-même associé aux idoles de l'Égypte, quel épouvantable blasphème! Lecteur, nous devrions réfléchir sérieusement à ces choses. L'effort de l'ennemi pour induire le peuple d'Israël à sacrifier à Dieu en Égypte révèle un principe beaucoup plus profond que nous ne le supposerions au premier abord. L'ennemi triompherait s'il pouvait obtenir ne serait-ce que l'apparence d'une sanction divine en faveur de la religion du monde. Il n'a point d'objection contre une religion de cette espèce. Il a remporté une victoire quand il a réussi à amener un vrai chrétien à accréditer la religion du monde. C'est un fait bien connu que rien ne suscite dans le monde plus d'indignation que le principe divin de la séparation d'avec le présent siècle mauvais. On vous laissera croire les mêmes choses, prêcher les mêmes doctrines, faire les mêmes œuvres, mais si vous essayez, même dans une petite mesure, de vous conformer aux ordres divins, « Détourne-toi de tels gens » de Timothée 3, verset 5, et « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés » de Corinthiens 6, verset 17, vous pouvez vous attendre à la plus violente opposition. Comment expliquer cela? Uniquement par le fait que, séparés de la vaine religion du monde, les chrétiens rendent à Christ un témoignage qu'ils ne peuvent jamais lui rendre tant qu'ils sont associés à elle. Il y a, entre la religion humaine et Christ, une immense différence. Un pauvre hindou plongé dans les ténèbres vous parlera de sa religion, mais il ne sait rien de Christ. L'apôtre Paul ne dit pas « S'il y a quelque consolation dans la religion » Philippiens 2, verset 1, bien que, sans aucun doute, les adeptes d'une religion quelconque y trouvent ce qu'ils estiment être une consolation. Mais Paul avait trouvé sa consolation en Christ après avoir fait pleinement l'expérience de la vanité de la religion, même sous sa forme la plus belle et la plus imposante. Galates 1, versets 13 et 14, Philippiens 3, versets 4 à 11. L'Esprit de Dieu, il est vrai, parle d'un service religieux pur et sans tache. Jacques 1, verset 27. Mais l'homme irrégénéré ne peut en aucune manière y participer, car comment pourrait-il avoir part à quoi que ce soit de pur et sans tache? Cette religion-là est du ciel, la source de tout ce qui est pur et excellent. Elle est exclusivement devant notre Dieu et Père pour l'exercice des fonctions de la nouvelle nature que possèdent ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Jean 1, verset 12 et 13, Jacques 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 23, 1 Jean 5, verset 1. Enfin, elle est caractérisée à la fois par la bienveillance active et la sainteté personnelle. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se conserver pur du monde. Jacques 1, verset 27. Si vous parcourez le catalogue des vrais fruits du christianisme, vous les trouverez tous classés sous ces deux titres. Et il est très intéressant de remarquer que, soit dans le chapitre 8 de l'Exode, soit dans le chapitre 1 de Jacques, la séparation d'avec le monde est présentée comme une qualité indispensable dans le vrai service de Dieu. Rien de ce qui est souillé par le contact du présent siècle mauvais ne peut être acceptable devant Dieu. « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Il n'y avait point en Égypte de lieu de réunion pour l'Éternel et son peuple racheté. La délivrance et la séparation de l'Égypte étaient pour Israël une seule et même chose. Dieu avait dit « Je suis descendu pour le délivrer » chapitre 3, verset 8. Et rien d'inférieur à cela n'aurait pu satisfaire Dieu ou le glorifier. Un salut qui aurait laissé le peuple en Égypte n'aurait pas pu être le salut de Dieu. De plus, nous avons à nous souvenir que le dessein de l'Éternel dans le salut d'Israël, aussi bien que dans la destruction du Pharaon, était que son nom soit publié dans toute la terre. Chapitre 9, verset 16. Or, quelle déclaration de son nom ou de son caractère y aurait-il eu si son peuple avait dû entreprendre de lui rendre culte en Égypte? Il n'y aurait eu aucun témoignage ou qu'un témoignage entièrement faux. Il était donc absolument nécessaire, pour que le caractère de Dieu soit pleinement et fidèlement manifesté, que son peuple soit entièrement délivré et complètement séparé de l'Égypte. Et il est tout aussi nécessaire maintenant, pour qu'un témoignage clair et sans équivoque soit rendu au Fils de Dieu, que tous ceux qui sont réellement à lui soient séparés du présent siècle mauvais. Telle est la volonté de Dieu. C'est pour cela que Christ s'est donné lui-même, selon ce que nous lisons, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit la gloire au siècle des siècles. » Galates 1, versets 3 à 5. Les Galates commençaient à s'adonner à une religion charnelle et mondaine, une religion d'ordonnance, une religion de jours, de mois, de temps, d'années, et l'apôtre, dès les premiers mots de son épître, leur rappelle que c'est pour délivrer son peuple de tout ce système-là que le Seigneur Jésus s'est donné lui-même. Il faut que le peuple de Dieu soit un peuple séparé, non point sur le principe d'une plus grande sainteté personnelle que celle d'autrui, mais parce qu'il est son peuple, et pour qu'il réponde intelligemment au but miséricordieux que Dieu s'est proposé en le mettant en rapport avec lui-même et en l'associant à son nom. Un peuple qui aurait encore vécu au milieu des souillures et des abominations de l'Égypte n'aurait pas pu être le témoin du Dieu très saint. De même maintenant, celui qui se mêle aux souillures d'une religion mondaine et corrompue ne peut pas être un fidèle témoin d'un Christ crucifié et ressuscité. Le chemin de trois jours est la vraie position du croyant hors du monde. La réponse de Moïse à la première objection du Pharaon est très remarquable. Moïse dit « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous sacrifierions à l'Éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens. Est-ce que nous sacrifierions l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux sans qu'ils nous lapident? Nous irons le chemin de trois jours dans le désert, et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous a dit. » Chapitre 8, versets 26 et 27. Le chemin de trois jours, c'est une séparation réelle de l'Égypte. Rien de moins que cela ne pouvait satisfaire la foi. Le peuple de Dieu doit être séparé du pays de la mort et des ténèbres dans la puissance de la résurrection. Il faut que les eaux de la mer Rouge séparent les rachetés du peuple d'Égypte avant qu'ils puissent sacrifier convenablement à l'Éternel. S'ils étaient restés en Égypte, ils auraient dû sacrifier à l'Éternel les objets mêmes du culte abominable de ce pays, c'est-à-dire les bêtes que les Égyptiens adoraient. C'était impossible. Il ne pouvait y avoir en Égypte ni tabernacle, ni temple, ni autel. De fait, comme nous le verrons plus loin, Israël ne fit entendre aucun chant de louange jusqu'à ce que l'assemblée tout entière fût parvenue, après une rédemption accomplie, au-delà de la mer Rouge. Il en est exactement de même maintenant. Il faut que le croyant sache où la mort et la résurrection du Seigneur Jésus l'ont placé pour toujours, avant qu'il puisse être un adorateur intelligent, un serviteur approuvé, un vrai et fidèle témoin. Il ne s'agit pas ici de la question de savoir si l'on est sauvé, si l'on est un enfant de Dieu. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont loin de connaître les pleins résultats de la mort et de la résurrection de Christ pour ce qui les concerne. Ils ne saisissent pas que la mort de Christ a aboli pour toujours leurs péchés, Hébreux 9, verset 26, et qu'ils sont participants de sa vie de résurrection, avec laquelle le péché ne peut absolument rien avoir à faire. Christ a été fait malédiction pour nous, non pas, comme quelques-uns voudraient nous l'enseigner, en naissant sous la malédiction d'une loi violée, mais en étant pendu au bois. Lire attentivement Deutéronome 21, verset 23 et Galates 3, verset 13. Nous étions sous la malédiction parce que nous étions dans nos péchés, ou que nous n'avions pas gardé la loi. Mais Christ, l'homme parfait, ayant magnifié la loi et l'ayant rendue honorable, Ésaïe 42, verset 21, est devenu malédiction pour nous, étant pendu au bois. Ainsi, dans sa vie, il a parfaitement obéi à la loi et l'a magnifiée, et dans sa mort, il a porté la malédiction pour nous. Il n'y a donc maintenant ni malédiction, ni colère, ni condamnation pour le croyant. Et le tribunal de Christ, devant lequel il devra comparaître un jour, lui sera tout aussi favorable que le trône de grâce l'est maintenant. Le tribunal manifestera sa vraie condition. Or, ce qu'il est, c'est Dieu qui l'a opéré. Il est l'ouvrage de Dieu. Dieu est venu à lui quand il était dans un état de mort et de condamnation, et il a été rendu exactement tel que Dieu voulait qu'il soit. C'est le juge lui-même qui a effacé tous ses péchés, et qui est sa justice, en sorte que ce tribunal ne peut que lui être favorable. Bien plus, il trouvera là la déclaration publique que celui qui est lavé de ses péchés, dans le sang de l'agneau, est parfaitement net. Voyez Jean 5, verset 24, Romains 8, verset 1, 2 Corinthiens 5, versets 5, 10 et 11, Éphésiens 2, verset 10. Tout ce qu'il y avait à faire, Dieu lui-même l'a fait. Et assurément, il ne condamnera pas sa propre œuvre. La justice qui était requise, Dieu lui-même l'a fournie. Et il n'y trouvera aucun défaut. La lumière du tribunal manifestera que le croyant est tout net. Jean 13, verset 10, 15, verset 3, Éphésiens 5, verset 27. C'est pour ne pas avoir saisi, dans la simplicité de la foi, ces vérités fondamentales, qu'un grand nombre d'enfants de Dieu souffrent de ne pas posséder une paix assurée et connaissent des hauts et des bas perpétuels dans leur état spirituel. Chaque doute dans le cœur d'un chrétien est un déshonneur fait à la parole de Dieu et au sacrifice de Christ. Si le chrétien est tourmenté par des doutes ou des craintes, c'est parce qu'il ne se tient pas, déjà dès à présent, dans la lumière du tribunal de Christ. Et ces incertitudes, que tant de personnes ont à déplorer, ne sont comparativement que des conséquences légères, puisqu'elles n'affectent que leur expérience personnelle. Les effets qu'elles produisent sur leur culte, leur service et leur témoignage sont beaucoup plus graves, puisque la gloire du Seigneur y est intéressée. Mais hélas, on pense peu à la gloire du Seigneur, parce que l'objet principal, pour beaucoup de chrétiens, c'est le salut personnel. Nous sommes très portés à considérer comme essentiel tout ce qui se rapporte à nous-mêmes, tandis que tout ce qui ne se rapporte qu'à la gloire de Christ, en nous et par nous, est envisagé comme secondaire. Il est bon cependant de saisir clairement que c'est la même vérité qui donne à l'âme une paix assurée et qui la met en état de rendre un culte intelligent et d'avoir un service agréable et un témoignage efficace. Dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre présente la mort et la résurrection de Christ comme le grand fondement de toute chose. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Versets 1 à 4. Tel est l'Évangile. Un Christ mort et ressuscité est le fondement du salut. Il a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Voir des yeux de la foi, Jésus cloué à la croix et assis sur le trône, voilà ce qui donne à la conscience une paix solide et au cœur une parfaite liberté. Nous pouvons regarder dans le tombeau de Christ et le voir vide. Nous pouvons regarder le trône en haut et le voir occupé et continuer notre chemin tout joyeux. Le Seigneur Jésus a réglé toutes choses sur la croix en faveur de son peuple, et la preuve qu'il l'a fait, c'est qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Un Christ ressuscité est la preuve éternelle d'une rédemption accomplie. Et si la rédemption est un fait accompli, La paix du croyant a un fondement stable. Ce n'est pas nous qui avons fait la paix. Jamais nous n'aurions pu la faire. Et même tout effort de notre part dans ce sens ne pourrait servir qu'à manifester d'une manière plus évidente notre insoumission à Dieu. Mais Christ, ayant fait la paix par le sang de sa croix, a pris place dans les hauts lieux, triomphant de tout ennemi. Par lui, Dieu annonce la bonne nouvelle de la paix. La parole de l'Évangile apporte cette paix, et l'âme qui croit l'Évangile a la paix, une paix établie devant Dieu, car Christ est sa paix. Voyez Actes 10, verset 36, Romains 5, verset 1, Éphésiens 2, verset 14, Colossiens 1, verset 20. De cette manière, Dieu non seulement a satisfait aux exigences de sa gloire, mais encore a ouvert un chemin par lequel son amour infini peut descendre jusqu'au plus coupable des descendants d'Adam. Ensuite, quant au résultat pratique, la croix de Christ a non seulement ôté les péchés du croyant, mais elle a encore rompu pour toujours le lien qui le rattachait au monde, en vertu de quoi il a le privilège de pouvoir considérer le monde comme une chose crucifiée et d'être estimé par le monde comme un crucifié. Telles sont les positions respectives du croyant et du monde. Ils sont crucifiés l'un à l'autre. Le jugement porté sur Christ par le monde a été exprimé par la position dans laquelle le monde a placé Christ. Il fut appelé à choisir entre Christ et un meurtrier, il donna au meurtrier la liberté et cloua Christ à la croix entre deux brigands. Or, si le croyant marche sur les traces de Christ, s'il manifeste son esprit, il occupera la même place que lui dans l'estimation du monde. De cette manière, non seulement il connaîtra que, quant à sa position devant Dieu, il est crucifié avec Christ, mais il en réalisera quelque chose dans sa marche et son expérience de tous les jours. Tandis que la croix a rompu le lien qui unissait le chrétien et le monde, la résurrection a introduit celui qui croit dans la puissance de nouveaux liens et de nouvelles relations. Si à la croix nous voyons le jugement du monde à l'égard de Christ, nous voyons dans la résurrection l'estimation de Dieu. Le monde a crucifié Christ, mais Dieu l'a haut élevé. Philippiens 2, verset 9. L'homme lui a donné la place la plus basse. Dieu lui a donné la place la plus élevée. Et si le croyant est appelé à une pleine communion avec Dieu dans ses pensées à l'égard de Christ, il partagera aussi la place que le monde a faite à Christ, et il pourra, de son côté, regarder le monde comme une chose crucifiée. Si donc le croyant est sur une croix, et le monde sur une autre, la distance morale qui les sépare est considérable. Et si la distance est considérable en principe, elle devrait l'être en pratique aussi. Le monde et le chrétien ne devraient avoir absolument rien en commun, et ils n'auront rien en commun tant que le chrétien ne renie pas son Seigneur et Maître. Le croyant se montre infidèle à Christ en proportion de la communion qu'il entretient avec le monde. Où cela nous place-t-il relativement au monde? Complètement en dehors de lui. Nous sommes morts au monde et vivant avec Christ. Nous sommes à la fois participants de sa rejection par la terre et de son acceptation dans le ciel. Et la joie de cette acceptation nous fait compter pour rien l'épreuve qui se rattache à la rejection. Être rejeté de la terre, sans savoir que j'ai une place et une part dans le ciel, serait pour moi insupportable. Mais quand les gloires du ciel absorbent mes regards, très peu de la terre suffit. Mais on demandera peut-être, qu'est-ce que le monde ? Les mots « monde » ou « mondanité » sont souvent vagues parce que nous sommes enclins à faire commencer la mondanité à un ou deux degrés au-dessus du point où nous nous trouvons nous-mêmes. La parole de Dieu, cependant, définit avec une parfaite précision ce que c'est que le monde quand elle le caractérise par « ce qui n'est pas du Père » 1 Jean 2, versets 15 et 16. Ainsi, plus ma communion avec le Père sera profonde, plus aussi sera exercé mon discernement à l'égard de ce qui est du monde. Telle est la manière d'enseigner de Dieu. Plus vous vous réjouissez dans l'amour du Père, plus aussi vous rejetez le monde. Mais qui est-ce qui révèle le Père? C'est le Fils. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, plus je sais, dans la puissance de cet Esprit, m'abreuver dans la révélation que le Fils fait du Père, plus mon discernement de ce qui est du monde est juste. On ne peut guère définir la mondanité. Elle est graduellement nuancée depuis le blanc jusqu'au noir. Vous ne pouvez pas poser une limite et dire « ici commence la mondanité ». Mais la sensibilité de la nature divine recule devant elle. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est de marcher dans la puissance de l'esprit afin de nous tenir éloignés de toute forme de mondanité. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Galates 5, verset 16. Marchez avec Dieu et vous ne marcherez pas avec le monde. De froides distinctions, des règles sévères, ne sont d'aucune efficacité. C'est la puissance divine qu'il nous faut. Nous avons besoin de comprendre la signification et l'application spirituelle du chemin de 3 jours dans le désert. Il nous sépare pour toujours non seulement des fours à briques et des commissaires de l'Égypte, mais aussi de ses temples et de ses autels. La deuxième objection. La deuxième objection du Pharaon allait dans le même sens que la première. Et le Pharaon dit « Je vous laisserai aller, et vous sacrifierez à l'Éternel votre Dieu dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas trop en vous en allant. » Chapitre 8, verset 28. S'il ne pouvait pas garder les Israélites en Égypte, il voulait au moins chercher à les tenir près des frontières, de manière à pouvoir agir sur eux par les diverses influences du pays. Le peuple pourrait être ainsi ramené, et le témoignage plus effectivement anéanti que si Israël n'avait jamais quitté l'Égypte. Les personnes qui retournent au monde, après avoir paru l'abandonner, nuisent beaucoup plus à la cause de Christ que si elles étaient toujours restées dans le monde, car elles confessent virtuellement que, ayant essayé des choses divines, elles ont découvert que les choses terrestres sont meilleures et plus satisfaisantes. Ce n'est pas tout. L'effet moral de la vérité sur la conscience des gens inconvertis est sérieusement compromis par ceux qui, après avoir fait profession d'abandonner le monde, retournent aux choses qu'ils semblaient avoir laissées. Des cas semblables ne fournissent à personne la moindre autorisation de rejeter la vérité de Dieu, car chacun est responsable pour lui-même et aura à rendre compte pour lui-même à Dieu. Mais l'effet produit sur d'autres est toujours mauvais. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première, car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. De Pierre 2, versets 20 et 21. Le maintien d'une position de voisinage répond admirablement bien au dessein de l'ennemi. Ceux qui ne savent pas prendre une position décidée sont toujours faibles et inconséquents, et de fait, leur influence est toujours néfaste. Il est très important de bien saisir que le but de Satan, dans chacune de ses objections, était de mettre obstacle au témoignage au nom du Dieu d'Israël qui ne pouvait être rendu que par un pèlerinage de 3 jours dans le désert. Israël devait s'éloigner, aller bien plus loin que le Pharaon ne pouvait se l'imaginer. Et quel bonheur ce serait si tous ceux qui font profession de sortir de l'Égypte s'en éloignaient ainsi véritablement en esprit. S'ils savaient bien reconnaître la croix et la tombe de Christ comme formant la limite entre eux et le monde. Nul homme ne peut, par la seule énergie de sa nature, se placer sur ce terrain-là. Ce n'est que comme mort avec Christ et ressuscité avec lui par la foi en l'opération de Dieu, Colossiens 2, verset 12, que l'on peut être séparé du monde. Puissent tous ceux qui font profession d'être chrétiens et qui s'appellent de ce nom s'éloigner ainsi. Alors leur lampe donnerait une lumière constante et leur témoignage serait intelligible, leur marche serait élevée, leur expérience riche et profonde, leur paix coulerait comme un fleuve, leurs affections seraient célestes et leurs vêtements purs. Et par-dessus tout, le nom du Seigneur Jésus serait glorifié en eux par la puissance du Saint-Esprit selon la volonté de Dieu le Père. La troisième objection. La troisième objection du Pharaon réclame de notre part une attention toute spéciale. Et on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon, et il leur dit « Allez, servez l'Éternel votre Dieu. » « Qui sont ceux qui iront ?» Et Moïse dit « Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards, nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail, car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. » Et il leur dit « Que l'Éternel soit ainsi avec vous, comme je vous laisserai aller avec vos petits-enfants. Regardez, car le mal est devant vous. Il n'en sera pas ainsi, Allez donc, vous les hommes faits, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez désiré. » Et on les chassa de devant la face du Pharaon. Chapitre 10, versets 8 à 11. Ici encore, nous voyons que l'ennemi s'attaque au témoignage qui devait être rendu au nom du Dieu d'Israël. Les parents au désert et les enfants en Égypte. Quelle affreuse anomalie! Ce n'aurait été qu'une demi-délivrance, à la fois inutile pour Israël et déshonorante pour Dieu. Cela n'était pas possible. Si les enfants étaient restés en Égypte, on n'aurait pas pu dire des parents qu'ils avaient quitté l'Égypte, puisque leurs enfants étaient une partie d'eux-mêmes. Tout ce qu'on aurait pu dire d'eux, c'est qu'ils servaient en partie l'Éternel et en partie le Pharaon. Mais l'Éternel ne pouvait avoir aucune part avec le Pharaon. Il fallait qu'il ait tout ou rien. C'est ici un principe important pour des parents chrétiens. Puissions-nous le prendre sérieusement à cœur. C'est notre heureux privilège de compter sur Dieu pour nos enfants et de les élever dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Nous ne devons pas nous contenter d'une part moindre pour nos enfants que celle dont nous jouissons nous-mêmes. La quatrième objection. La quatrième et dernière objection du Pharaon se rapportait au gros et au menu bétail. Et le Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. Seulement que votre menu et votre gros bétail restent. Vos petits-enfants aussi iront avec vous. » Chapitre 10, verset 24. Avec quelle persévérance Satan cherchait à empêcher la sortie d'Israël hors de l'Égypte. Il cherche premièrement à les faire rester dans le pays, ensuite à les faire rester dans le voisinage du pays, puis à retenir une partie du peuple dans le pays, et enfin, quand il ne réussit dans aucune de ces trois tentatives, il cherche à les faire partir sans aucun moyen de servir l'Éternel. S'il ne peut pas retenir les serviteurs, il cherche à retenir ceux par quoi ils peuvent servir, et à arriver ainsi au même but. S'il ne peut les conduire à sacrifier dans le pays, il voudrait les envoyer hors du pays sans victime pour les sacrifices. La réponse de Moïse à cette dernière objection met en évidence les droits souverains de l'Éternel sur son peuple et sur tout ce qui lui appartient. Et Moïse dit « Tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. » Chapitre 10, versets 25 et 26. Ce n'est que quand les enfants de Dieu savent prendre par la foi la haute position dans laquelle la mort et la résurrection de Christ les ont placés qu'ils peuvent avoir une intelligence quelque peu exacte des droits de Dieu sur eux. Nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Israël ne connaissait ni ses devoirs ni les exigences de Dieu jusqu'à ce qu'il eût fait le chemin de 3 jours. Il ne pouvait pas connaître ces choses au milieu de l'atmosphère corrompue de l'Égypte. C'est quand, par la foi, nous saisissons la place dans laquelle le précieux sang de Christ nous a introduits, c'est quand nous contemplons les résultats variés et merveilleux de l'amour qui nous a rachetés, quand nous considérons attentivement la personne de celui qui nous a introduits dans ce lieu et nous a fait don de toutes ses richesses, que nous pouvons comprendre quel est le service que Dieu attend de ses rachetés. Il n'en restera pas un ongle. L'Égypte n'est pas le lieu de quoi que ce soit qui appartienne aux rachetés de Dieu. Corps, âme, esprit, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons lui appartient. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Et c'est notre heureux privilège de nous livrer nous-mêmes, avec tout ce que nous possédons, à celui auquel nous appartenons et que nous sommes appelés à servir. Servir devient ainsi notre joie. Dieu est digne de toute l'affection de nos cœurs. Il n'y a pas dans tout ce qui nous appartient de sacrifice trop précieux pour son autel. Plus nous marcherons près de lui, plus aussi nous trouverons notre joie à faire sa volonté. Le croyant considère comme son plus grand privilège de servir le Seigneur. Il ne marche pas chargé d'un lourd et pénible joug. Son fardeau a été ôté pour toujours par le sang de la croix, tandis que lui-même, il s'avance racheté, régénéré et affranchi, libre pour servir. Nous considérerons le contenu du chapitre 11 en connexion avec la sécurité d'Israël abritée sous le sang de l'agneau pascal.